Bonsoir. Plusieurs milliers de Congolais ont été expulsés de l'Angola ces derniers jours par la frontière de Kamako au Kasaï, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Entre le 1er et le 6 octobre, plus de 52 600 Congolais sont arrivés à Kamako, où ils vivent dans des conditions difficiles. Plusieurs témoignages font état de violences subies sur le sol angolais par les Congolais expulsés. Quelle analyse faire de cette situation? C'est la question au débat de ce soir. Et pour en parler, nous accueillons Tyson Muteba Nswam, vice-gouverneur de la province du Kwango. Tyson Muteba, bonsoir.
Bonsoir.
Léon Mubikai, bonsoir. Il va nous rejoindre dans un instant. Il est médecin et député national, élu de Luebo dans la province du Kasaï, mais également président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Et le dernier intervenant de ce soir est lui aussi médecin, Freddy Mbakata, directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement ADSSE. Cette organisation collabore avec le HCR. Freddy Mbakata, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ce soir, nous parlons d'une situation qui se répète assez régulièrement aux frontières de la République démocratique du Congo. Plusieurs milliers de Congolais ont été expulsés de l'Angola ces derniers jours par la frontière de Kamako au Kasaï. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, entre le 1er et le 6 octobre, plus de 52 600 Congolais sont arrivés à Kamako, où ils vivent dans des conditions difficiles. Plusieurs témoignages font état de violences subies sur le sol angolais par les Congolais expulsés. Un récit signé Joël Bufengo.
Ces arrivées massives de Congolais à Kamako font suite à une opération de la police angolaise visant les étrangers en situation irrégulière et notamment dans les maisons d'achat des diamants. Le porte-parole de l'opération, le commissaire Antonio Bernardo, cité par l'agence France Presse, parlait notamment des Congolais, des Libanais, des Maliens et des Nigériens qui sont expulsés. Pour l'heure, le nombre exact des Congolais qui ont été expulsés n'est pas encore connu, mais la Direction Générale des Migrations a fait état des 72 000 personnes qui sont rentrées par la frontière de Kamako entre le 1er et le 8 octobre. Parmi ces personnes, il y a des expulsés et des retournés volontaires. Certains d'entre eux disent avoir été violentés au moment de leur expulsion. C'est ce qui révèle des témoignages des expulsés recueillis par la société civile de Kamako. Pierrot Efomi en est le vice-président. Il parle même des personnes tuées sans donner plus de détails.
Hier, j'ai été informé que non, il y a des gens qui étaient à Lukapa et ceux qui résistaient de ne pas rentrer ont été victimes, n'est-ce pas, encore de violences atroces. Il y a eu même perte de vie humaine. Dans les conditions où on vous demandait si vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous restez faire encore en Angola, la résistance au risque de perdre sa vie. À ma possession, il s'était 14, mais hier la nuit, on m'a informé qu'il y a eu mordant.
Les derniers chiffres dont vous disposez font état des 14 Congolais tués en Angola, c'est bien ça?
Oui, justement, vers Lukapa.
Des personnes violentées avant d'être expulsées, le chef du bureau de la Commission nationale pour les réfugiés à Kamako en a également entendu parler. Mais il précise ne pas s'être rendu sur place pour confirmer ou infirmer ces allégations. Mathieu Mboma.
Nous avons reçu des témoignages de gens qui ont été violentés. Il y a eu même des accidentés parmi les véhicules qui traitaient les expulsés. Nous avons effectivement ces informations. Bon, on a été informés, mais il est difficile pour nous de vérifier cette information-là. Mais sinon, les informations, nous les avons. On fait état de 4 morts du côté angolais. Mais comme on ne sait pas traverser pour vérifier, donc on se contente seulement à garder cette information.
Certains témoignages font également état des personnes extorquées par les services aux frontières à leur arrivée à Kamako.
C'était Joël Bofengo. Tyson Muteba Nswam, vice-gouverneur de la province du Kwango. C'est surtout le Kasaï qui est mis en avant dans ces derniers cas d'expulsion brutale des Congolais par l'Angola. Mais on sait que votre province, le Kwango, est aussi concernée. Pouvez-vous déjà nous décrire la situation dans votre province, par exemple?
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. La situation dont il est question au Kasaï concerne également le Kwango, ma province. Le Kwango est une province qui a au moins 1200 kilomètres de frontières avec notre pays voisin, l'Angola. Depuis le 1er octobre jusqu'à ces jours, nous sommes en train de vivre une situation qui nous inquiète et qui nous préoccupe. Kaemba et Kasongo-Lunda sont nos deux territoires. Il faut aussi compter Popo qui font frontière avec l'Angola. Depuis le 1er octobre jusqu'au 9 octobre, je veux vous donner, de par les statistiques, les renseignements que nos services nous ont fournis, vous prenez le cas du territoire de Kaemba. Il y a 8 944 hommes, 7 448 femmes, 5 933 enfants. Total pour le territoire de Kaemba, 22 325 personnes refoulées. Pour Kasongo-Lunda, vous avez hommes, 11 514, 978 femmes, enfants, 875. Total, 13 377. Et si nous prenons le total pour le Congo, il y a 20 458 hommes, 8 426 femmes, 6 808 enfants. Total pour le Congo, de par nos postes frontaliers, de Chamaziamo, de Moutetami, de Mawangu, de Kaungula, de Tembo et j'en passe, nous avons 35 702 personnes refoulées de l'Angola. Selon les données fournies par la Société civile du Congo, en collaboration avec l'UNICEF au Congo, il est signalé à partir de Kaemba 2687 enfants non accompagnés, 3711 enfants séparés de leurs parents, 1895 orphelins. Il faut aussi signaler 561 victimes de violences sexuelles. Comment ces pratiques se font-elles sur la ligne frontalière? Nos voisins de l'Angola qui expulsent nos frères par des pratiques inhumaines, ils fouillent. Et quelles pratiques de fouilles vaginales et anales pour chercher à récupérer les diamants? Qu'est-ce qu'ils font pour, sur la ligne frontalière? Ils tapent. Et je vais dire que c'est vraiment très déplorable pour nous. C'est pourquoi nous avons sollicité et sollicitons en ce moment que ceux qui nous entendent puissent venir au secours de nos frères qui sont en train de souffrir.
Alors, monsieur le vice-gouverneur, est-ce que ces statistiques que vous avez sont connues du gouvernement central?
Ces statistiques, je vais les dire. Au quotidien, nous faisons des rapports. Nous faisons des rapports officiels, de messages officiels. S'ils peuvent vous les dire, je pense bien qu'ils relèvent de l'administration, ils relèvent de la sécurité. Et quand nous communiquons avec l'autorité, nous ne pouvons pas passer dans la rue pour faire des communications, des chantages.
Alors,
nous communiquons avec l'autorité.
Alors, Tyson Muteba Swam, pourquoi ces Congolais sont-ils refoulés en RDC et pourquoi de manière si brutale?
Vous pouvez déjà vous le dire. Les Congolais sont partis en Angola. Ce n'est pas leur deuxième pays. Ce n'est pas leur deuxième État. Ils sont allés pour chercher du diamant. Ils sont allés dans des mines de diamants.
Est-ce que vous croyez que 35 000 personnes sont vraiment parties de la RDC pour l'Angola pour les raisons que vous venez d'évoquer, y compris les enfants, parce qu'ils sont les plus nombreux, hein, vous avez vous-même dit, y compris les enfants, tous sont-ils vraiment partis pour rechercher le diamant en Angola? Il y en a en RDC, non?
Non, mais ils ne sont pas partis tous le même jour. Il faut dater le départ du Congo pour l'Angola vers les années 80. Il y a des enfants qui sont nés dans des mines, qui sont nés dans des cités, qui sont nés à Kafumbu, qui sont nés à Lukapa, ce sont des îles diamantifères. Depuis qu'ils sont partis là-bas, bon, ils se sont habitués, comme ils veulent faire les trafics, eh bien, ils ont oublié même qu'ils étaient des Congolais. Parmi ces refoulés, tout le monde n'est pas Congolais. Il y a des Guinéens, il y a des Ouest-Africains, il y a des gens qui viennent de partout.
Alors,
mais le Congo n'est qu'une porte de sortie et d'entrée.
Alors, comment expliquer que l'Angola, qui connaît très bien la nationalité des gens, expulse comme ça même des étrangers? Nous avons déjà dit, hein, toutes ces personnes sont expulsées brutalement, mais qu'on expulse en RDC même des étrangers, comme vous venez de l'évoquer, est-ce que ce n'est pas un peu révoltant suffisamment pour que la RDC tape un peu du poing sur la table?
cela ne peut pas nous révolter, d'autant plus que le Congo, notre pays, c'est un pays qui prône l'hospitalité. Ce que les Anglais sont en train de faire, je voudrais aller en besogne pour vous dire que lorsqu'un fou court nu et que vous l'initiez, vous devenez également fou. Si les Angolais sont en train de chasser nos frères, nous ne pouvons pas les imiter. Je pense bien que l'hospitalité est africaine. C'est ce que nous devons dire, nous devons interpeller les Angolais, qu'ils sachent que l'Africain, là où il se trouve, il doit se sentir chez lui.
Merci.
Nous avons beaucoup d'Angolais. Nous avons beaucoup d'Angolais qui ont élu domicile chez nous au Congo.
Tyson Lumutseba, monsieur le vice-gouverneur, oui. Nous revenons à vous oui. Tout à l'heure pour que vous continuiez à nous éclairer sur cette situation. Le temps de passer la parole à Léon Mobikai, médecin et député national élu de Luebo dans la province du Kasaï, une des provinces concernées par le phénomène d'expulsion brutale que nous sommes en train d'aborder dans cette émission, mais également Léon Mobikai est également président du groupe parlementaire UDPS et Alliés à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, comment analysez-vous tout le commentaire que nous venons d'entendre?
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je vois la situation sous deux angles. Nous venons de vivre dans la province du Kasaï des atrocités liées au phénomène Kamwenansa. Et ces gens se sont déplacés massivement aussi vers l'Angola. Et ça, ce sont les gens qui ont fui à cause de la sécurité, qui se sont retrouvés là-bas. Et par manque d'encadrement, il y en a qui se sont retrouvés dans les puits des diamants, en train d'exploiter les diamants. Et apparemment, il y a aussi d'autres qui sont là depuis longtemps, comme le vice-gouverneur vient de le dire, qui sont partis pour des raisons économiques. Et ces gens-là, l'impression que j'ai aujourd'hui est qu'on a mis tout le monde dans les mêmes sacs. Il est très difficile de séparer qui sont partis, qui se sont retrouvés en Angola pour des raisons économiques et qui se sont retrouvés en Angola pour des raisons de sécurité. Et aussi, il faut dire que ceux qui sont partis pour raisons de sécurité, même ceux qui sont partis pour les raisons économiques, ils ont quand même droit à l'asile. Et je ne sais pas s'ils ont suivi la voie normale pour avoir ce droit à l'asile qui est reconnu par des tests internationaux depuis 1951. Et même l'organisation africaine, de l'Union africaine, reconnaît aussi depuis 1967. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là qu'il faut exploiter suffisamment. Et demander qu'il y ait réciprocité, je crois aussi qu'il y a des tests sur le plan international qui ne permettent pas qu'il y ait réciprocité, parce que ces gens-là n'étaient pas protégés par leur gouvernement. Donc les gens qui ont été expulsés n'étaient pas protégés par leur gouvernement. Et ceux qui sont ici en asile ne sont pas protégés par les gouvernements angolais. Et pour cette raison-là, on ne peut pas faire la réciprocité dans ces cadres-là.
Léon Mobikai, est-ce que ce n'est pas un peu tôt, je dirais même, excusez le terme, précipité aussi bien de votre part que de la part de tous ceux qui estiment que non seulement qu'il ne faut pas faire la réciprocité, mais qu'il faut expliquer ou comprendre ces expulsions. Est-ce que il y a eu à l'heure actuelle suffisamment d'analyse, d'approfondissement de la situation pour relativiser comme vous êtes en train de le faire là?
En fait, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment une analyse approfondie, mais vous devez vous mettre aussi en tête que c'est pas la première fois que les Congolais sont expulsés d'ailleurs. C'est devenu une situation commune, mais qui est très banalisée, pas pour nous, mais plus banalisé par les gouvernements. Ceux qui nous dirigent ne tiennent même pas compte de ça. Il y a de cela peut-être 9 ou 10 mois, j'ai rentré d'Abuja, et au niveau du Gabon, je me suis retrouvé avec les Congolais dans l'avion expulsé vers ici. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans, le Congo Brazza a fait la même chose. Mais nous sommes arrivés au niveau le plus ridicule au monde. Ça, c'est ce que nous voyons autour de nous. Mais combien de Congolais sont expulsés en Europe, aux États-Unis, chaque jour? Donc, il faut dire que cette situation a commencé. Pour moi, je peux vous dire que depuis les années 90, avec les pillages, depuis la zaïanisation, c'était un peu raisonnable, mais depuis les années 90, avec les pillages, le tissu économique a beaucoup chuté. Mais cette situation est plus accentuée parce que les diamants que les amis sont en train de suivre de l'autre côté, nous en avons. Mais tous les carrés miniers dans ces pays ont été vendus. Alors qu'en Angola, on peut encore faire une exploitation artisanale. Vous avez suivi cette semaine ce qui s'est passé à Kolwezi avec ceux qui veulent l'exploiter d'une façon artisanale. Donc les gens fuient la misère.
Mais monsieur le député, est-ce que ce que l'opinion souhaiterait vraiment comprendre, c'est pourquoi, au fait, cette valse régulière d'expulsion brutale? Parce que les arguments que vous donnez jusqu'ici, des Congolais qui seraient peut-être en irrégularité, qui seraient allés frauduleusement dans les pays étrangers, on a connu des pays qui ont eu un tissu économique très difficile, plus que la RDC pour le moment, des pays comme l'Éthiopie ou la Somalie, mais on a difficilement entendu que les Éthiopiens et les Somaliens aient été brutalement expulsés des pays où ils étaient. Qu'est-ce qui se passe avec la RDC, et surtout la RDC et l'Angola, vu que c'est répétitif?
Je crois qu'il y a ici un conflit d'intérêts. Nous devons le dire clairement, il n'y a pas à nous voiler la face. Les Congolais qui se retrouvent en Angola, ils exploitent d'une façon artisanale. Ils vendent d'une façon artisanale les diamants. Et je crois que les Angolais eux-mêmes se retrouvent dans une situation où ils voient qu'il y a une concurrence dans leurs propres intérêts. C'est pas tous les pays qui permettent ce que nous permettons chez nous, parce que chez nous, même un Chinois peut venir vendre les beignets sur la place publique, personne ne va lui dire quelque chose. Mais ici, vous avez aussi suivi il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud, les gens qui se sont permis de faire les petits commerces, ils ont été expulsés. Donc je crois qu'il y a un conflit d'intérêts, et c'est là où nous devons aussi raisonner pourquoi ces gens-là partent. Mais moi, je pense que c'est plus pour la misère. Mais aussi, il faut reconnaître aussi que le gouvernement angolais a aussi sa part de responsabilité dans tout ça. Parce que depuis 1951, après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde peut aller en asile, demander l'asile là où il se trouve. Donc je pense que le gouvernement angolais aussi devait protéger ceux qui sont sur son terrain.
Merci. Nous revenons à vous dans un instant. Freddy Mbakata, vous-même également médecin, directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Cette ONG collabore avec le HCR. Faut-il, à ce stade, pour ce cas, relativiser ces expulsions et rejeter toute la faute aux expulsés?
Bon, d'abord, c'est avec tristesse que j'accueille ces événements qui sont récurrents. Et ce que je déplore ici, j'ai l'impression que nous n'avons pas tiré des leçons, des bonnes leçons, des crises passées et des refoulements passés.
Ça, vous parlez de la RDC?
Oui, de la RDC. C'est récurrent. L'Angola, c'est la énième fois qu'il refoule, qu'il expulse nos compatriotes. En République du Congo récemment, nous avons vécu cela, c'est déplorable. Donc, ce qui est beaucoup plus important pour nous en ce moment, nous devons nous organiser pour accueillir dans de très bonnes conditions humanitaires nos compatriotes qui arrivent, qui sont refoulés, et comment nous les accueillons sur notre propre sol.
Et à ce moment-ci, depuis que ces situations ont été publiées, avez-vous l'impression que les infrastructures, que les dispositifs sont prises pour bien les accueillir comme vous le souhaitez?
C'est là où j'en viens. Si vous prenez le cas de Kamako dans la province de Kasaï, où nous avons un point focal, notre organisation a un point focal, l'ensemble des personnes refoulées récemment s'élève à 87 498 à peu près. Cette population est de loin supérieure à la population locale de cette localité qui, elle, est aux environs de 47 654 personnes. Vous voyez, c'est le double de ce qui arrive. Quelles que soient les infrastructures sociales que vous pouvez avoir, vous êtes en dépassement. Il y a un grand nombre qui arrive, les centres de santé sont dépassés, les hôpitaux, les écoles, les services de distribution d'eau potable, les abris, tout ce que vous voulez, toutes ces infrastructures sociales de base sont en dépassement. Et il y a des gens qui vivent dans une situation de promiscuité. Ces conditions sont propices à l'éclosion de plusieurs maladies mensales, les diarrhées, d'autres maladies, comme vous le savez. Donc, nous devons nous organiser, nous, dans notre pays, en sachant que ce sont des événements récurrents. Nous devons nous préparer. Et ici, dans votre radio, c'est la énième fois que je lance les cris d'alarme que nous devons nous préparer, nous, Congolais, pour faire face aux crises humanitaires. Comment nous pouvons nous préparer? C'est en créant une banque humanitaire. Si on avait une banque humanitaire, le vice-gouverneur du Congo, qui est en train de faire un message pathétique, aurait pu prendre des véhicules, il serait arrivé dans les frontières de Kasongolunda, de Tembo, avec des tentes, avec de l'eau potable, avec des articles ménagers essentiels, jerrycan, couverture, nattes, pour secourir nos compatriotes.
Mais
nous faisons la politique de l'attentisme.
À l'heure actuelle, puisque vous avez une structure sur place qui monitore ce qui se passe, ça c'est ce qui aurait dû être fait. Mais à l'heure actuelle, quel est le dispositif qui est mis en place là-bas? Y en a-t-il déjà? S'il y en a, lequel? Et s'il n'y en a pas, quelle est la situation de prise en charge?
Vous savez, pour une crise pareille, ce n'est pas une petite ONG nationale comme la nôtre qui peut apporter la réponse. La réponse doit se situer à deux niveaux. Au niveau du gouvernement congolais, de notre pays, de notre gouvernement,
Mais
et au niveau de la communauté humanitaire.
Que savez-vous de ce que le gouvernement est en train de faire sur place?
Non, moi je ne suis pas du gouvernement, mais je sais, quand vous voyez la bonne analyse que le vice-gouverneur du Congo a fait, et quand il nous confirme qu'il a transmis des informations au gouvernement central, je ne peux espérer que notre gouvernement puisse réagir dans le meilleur délai pour soulager la misère de nos compatriotes.
Freddy Mbakata, je reviens à vous tout à l'heure, le temps de redonner la parole à M. le vice-gouverneur du Congo, Tyson Muteba. Mais avant que lui-même ne prenne la parole, nous allons écouter cette réflexion de notre auditeur de Isangi dans la province de la Tchopo.
Merci, c'est ça, là, depuis Isangi dans la province de la Tchopo. Cette situation est donc la énième fois sur le sol angolais. Cela montre la faiblesse et le manque de prise en charge des autorités congolaises vis-à-vis de sa propre population qui sont abandonnées à leur propre sort et qui subissent des agressions, des viols, des tortures vis-à-vis de nos pays frontaliers. Alors qu'ici en RDC, il y a des milliers d'étrangers qui vivent et qui circulent librement sans avoir un document valable. Or, il y a aussi des services de contrôle et de sécurité dans notre pays. Cela montre combien de fois que le régime en place est incapable même de prendre leurs responsabilités en main. Les Congolais de Mobutu et de Mouzé sont aujourd'hui considérés comme des torchons par leurs pays voisins.
Alors, monsieur le vice-gouverneur Tyson Muteba Nswam, notre auditeur semble assez révolté de ce qui se passe sur place, mais dites-nous déjà, qu'est-ce que le gouvernement provincial ou alors le gouvernement central fait sur place pour la prise en charge?
La réponse est claire. Nous n'allons pas partir sur quatre voies. Je vais dire ceci, tout ce que la province compte faire, et ce que la province fait, si je vous ai donné les données statistiques, cela signifie qu'à notre niveau, étant préoccupé par la situation, nous avons mis le doigt pour palper cette situation et vous donner les détails réels pour vous donner la situation, comment elle évolue ici chez nous. Et les chiffres que je vous ai donnés, ce sont des chiffres pris d'une façon indicative. Mais la situation évolue. Demain, on pourra encore vous donner d'autres chiffres. Même si vous avez préparé un sac de foufou pour nourrir 200 personnes et que le lendemain, vous en avez 600, vous devez recourir aux autres. Et ce qui se fait en province, je prends d'abord les autorités locales, à Kaemba, tout comme à Kasongo-Runda. Je pense bien que ceux-là qui viennent, ils sont accueillis. Mais ce qu'on leur donne comme vivre, ce qu'on leur apporte comme soins primaires ne suffit pas. Et même si nous devons parler de la province n'est pas seulement le chef-lieu. Prenez d'abord les deux territoires d'accueil et les athées de ces deux territoires, c'est des mêmes pour les accueillir. Mais ce que nous déplorons, ce sont les conséquences, le corollaire de leur présence dans les cités frontalières.
Tyson Muteba, nous avons l'impression que, bien évidemment, c'est une situation qui surprend tout le monde, y compris vous les autorités, mais ce que nous devons retenir, si je me trompe, vous me corrigez, à vous entendre votre réponse, ce que l'on peut retenir, c'est que vous êtes débordé et que vous n'arrivez pas à gérer le grand flot d'expulsés qui sont arrivés sur votre territoire, c'est ça?
Et tout à fait, nous sommes débordés. C'est une situation qui nous arrive au moment où on ne s'était pas préparé. Je dis que tous ces Congolais qui sont refoulés, ils sont partis du Congo depuis des années 60-70.
Alors, dites-nous, monsieur le vice-gouverneur, vice-gouverneur, vous, localement, vous êtes peut-être débordé, mais je posais la question au niveau du gouvernement central. Quelle est la réaction, quelle est l'action de prise en charge qui est menée jusque-là ou qui est annoncée?
Il y a deux cités, deux réalités. Le gouvernement central peut aujourd'hui prendre des dispositions pour nous venir au secours. Et ils ne le diront pas, ils ne passeront pas dans la rue pour dire « voici ce que nous sommes en train de faire ». Je pense bien que pour des hommes responsables, il faut attendre, parce que la sonnette d'alarme est suivie de tous, même si le gouvernement n'intervient pas. Ceux qui nous écoutent, ils vont intervenir. Et jamais je ne pense pas que le gouvernement ne puisse pas intervenir. Le gouvernement va intervenir. C'est question de patienter.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. On a compris que le gouvernement, pour le moment, est dépassé par cette situation et n'est pas intervenu efficacement, d'où le SOS que vous envoyez des situations humanitaires qui risquent de surgir, peut-être c'est même déjà le cas. Léon Moubikaï, vous allez prendre la parole, mais après avoir écouté ce commentaire qui nous vient de Bukavu.
Je suis Namegabe Pascal, apprenti de Bukavu, au sud Kivu. Je pense que l'Angola n'a pas tort d'expulser les gens qui veulent vivre dans un pays d'autrui dans l'irrégularité, mais aussi à cause des ordres orchestrés par les autorités de leur pays. Même si l'Angola ne détient pas le monopole de chasser les Congolais comme des mouches, il revient à la RDC de mettre tous les moyens en œuvre en vue de stabiliser son territoire national, et cela permettra aux Congolais de vivre aisément dans leur pays.
Léon Moubikaï, tout à l'heure, nous épiloguions sur cette différence qu'il y a entre la réaction de la RDC et d'autres pays qui ont connu des difficultés économiques. Mais est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal que la RDC se révolte chaudement pour des commentaires venant de l'Occident et prend des mesures de réciprocité, alors que quand on tabasse, tue ou on violente les Congolais de la manière dont ça a été découvert par le vice-gouverneur, on relativise, on comprend, on parle d'irrégularité.
Merci beaucoup pour la parole, encore une fois de plus. Mais moi, je pense qu'il y a un problème d'absence de leadership au niveau du gouvernement central. Effectivement, nous avons un groupe de gens qui cherchent à s'enrichir, malheureusement, qui oublient qu'il y a la population qu'il faut prendre en charge. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. La situation a commencé depuis les premiers. Nous sommes déjà les 10. Il n'y a aucune réaction au niveau central. Et quand vous entendez le vice-gouverneur, mais c'est le vœu d'impuissance qu'il est en train d'exprimer. Il est malheureux. Il est devant les humains qui sont en train de mourir. Et bientôt, là, on va nous parler de choléra, on va nous parler d'autres maladies à main sale, alors que la situation est en train d'évoluer progressivement. Le vice-gouverneur vous donne plus de 22 000 personnes. Mais entre-temps, il vous dit que les statistiques que j'ai aujourd'hui ne sont pas les statistiques que j'aurai demain. Mais qu'est-ce que le gouvernement central est en train de faire?
Mais monsieur le député Léon Moubikaï, mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu de votre responsabilité en tant qu'élu du peuple? Quand des situations comme ça arrivent, c'est des catastrophes imprévues, il n'est pas prévu un mécanisme au niveau du Parlement ou même de vous, de l'opposition, pour agir vite, taper du poing sur la table pour que on avance plus rapidement que prévu.
Nous devons séparer un peu les pouvoirs que nous avons, l'exécutif et le législatif. L'exécutif devait avoir un plan. Ici, nous avons parlé il y a quelques jours, quand on parlait d'Ebola, toujours dans votre studio ici, on parlait d'un plan de contingence. Mon confrère à côté de moi vient de dire des banques de données ou quoi, banque humanitaire, qu'on devait avoir. Mais c'est la même chose. On devait avoir ces choses en permanence. On ne devait pas attendre qu'on expulse les gens. On devait dire, quand il y a les catastrophes qui éclatent au niveau de l'Angola, au niveau de Kamako, voilà comment vous devez agir. Voilà comment Tshikapa va agir. Voilà comment Akaemba on va faire. Mais on attend, les choses sont en train de pourrir. Nous sommes, ça fait déjà 10 jours. Monsieur le journaliste, ça fait 10 jours. Qu'est-ce que le gouvernement central a fait concrètement? Rien du tout. 10 jours après. Et pendant ces temps ici, les gens sont en... Vous allez découvrir même que ceux qui seront morts sur le sol congolais seront plus nombreux que ceux qui sont morts en Angola. Vous allez les découvrir d'ici 2 semaines.
Alors, cette situation, elle est déjà catastrophique, telle que nous la découvrons tous. Mais qu'est-ce que la RDC peut faire pour ne fût-ce que mobiliser l'opinion ou les opinions de manière générale extérieure pour que l'Angola, même humanitairement, puisse trouver une solution, pas des expulsions massives et brutales de ce genre, même s'il y a quelques irrégularités.
À ce niveau-là, je suppose que les autorités de ces pays devaient aussi collaborer avec les autorités d'Angola. Parce que ce n'est pas la première fois. Les mêmes Congolais qui ont été expulsés, ils sont aussi rentrés. Tout ça, c'est à cause de la misère dans ces pays-ci. Ce n'est pas les diamants qui manquent à Kaemba. Mais les diamants de Kaemba sera exploité pour un certain groupe de gens, alors qu'en Angola, il peut se retrouver libre dans une forêt en train de faire son petit puits de diamants et avoir quelque chose. Donc il y a aussi cet élément-là. Il y a des gens qui se disent, vaut mieux aller mourir dans un pays étranger que de rester dans ce pays où je ne vois même pas mon avenir. Aujourd'hui, les gens sont en train de prier. Il y a même des prières pour avoir un voyage. Vous êtes dans votre propre pays, mais vous priez pour avoir un voyage pour aller en Europe ou en Angola. C'est quel type de prière? Donc ça signifie que la misère a atteint un niveau où quelqu'un s'est dit, je préfère aller mourir ailleurs que de vivre avec ce groupe de gens qui est en train de s'enrichir sous mon nez alors que moi je ne retrouve pas mon compte dans les biens qui nous appartiennent. Prenez l'exemple par exemple de cobalt aujourd'hui. Ça devait être un boom. Les Congolais devaient être à l'aise, mais le budget qu'on nous a amené, c'est encore 5 milliards.
Merci.
Alors qu'on devait avoir un boom économique où tout le monde devait se retrouver, mais entre temps on tue les Congolais à Kolwezi.
Merci Léon Moubikaï. Nous reviendrons à vous pour les mots de conclusion. Freddy Mbakata, je vous vois demander la parole depuis longtemps. Malheureusement, la logique du débat veut que vous ne la preniez que maintenant, mais après avoir écouté tous ensemble cet auditeur de Kalemi.
Je suis Kahiri Matembera, j'appelle de Kalemi. Le gouvernement congolais a longtemps démontré ses limites dans le social des Congolais. Je ne trouve plus la raison de continuer à crier, condamner ou insister. À mon avis, la solution efficace serait la solidarité du peuple congolais. Et bien merci, comme le monde évolue, avec une contribution de chaque citoyen actif et toute autre personne de bonne volonté, à travers un compte M-Pesa, on peut avoir un petit lien qui peut soulager nos frères en difficulté. Pas seulement les réfugiés de l'Angola, mais aussi les déplacés internes.
Alors, Freddy Mbakata, je peux me tromper sur les chiffres, puisqu'on me les donnait sur le champ à l'antenne. Si on considère à peu près 50 000 refoulés de l'espace du Bandundu et les 80 000 d'autres expulsés venant du Kasaï, ça fait beaucoup de monde. Vous, en tant que personne assez sensibilisée à ce genre de situation, que devrait faire la RDC en principe pour prendre en charge cette quantité de personnes dans cette situation?
D'abord, il y a des mesures qui devraient être prises en amont. Comme j'ai dit, on doit planifier et s'attendre à n'importe quel moment à la survenue des crises humanitaires. Dans les cas d'espèce, les refoulements passés auraient pu nous permettre de tirer des leçons positif qu'on devrait capitaliser aujourd'hui. C'est-à-dire, on devrait s'organiser. Dans le cas pareil, si une crise pareille survenait, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, en amont, on devrait se préparer.
Oui, oui.
Ça n'a pas été le cas.
Oui, mais concrètement, sur le plan de l'infrastructure.
Actuellement, ce qu'on peut faire, voilà, sur le plan diplomatique, il faudra que notre gouvernement saisisse le gouvernement angolais pour que cette situation s'arrête. Et pendant ce temps, en interne, j'entends le vice-gouverneur du Kwango, qui donne de très belles statistiques. Je les félicite parce qu'ils ont la situation en main. Mais outre l'appel qu'ils font au niveau du gouvernement national, il peut se référer aussi au monde humanitaire. Il y a les fonds humanitaires de la RDC qui possèdent des fonds, qui en ce moment ici peuvent lancer une allocation d'extrême urgence pour que les humanitaires partent sur place pour prendre cette crise en main. Sur le plan de l'eau potable, sur le plan des abris, sur le plan médical, sur d'autres plans. Sinon, on va arriver à l'éclosion des grandes endémies, à des maladies que nous ne pourrons pas contrôler. Donc, il y a une action diplomatique pour arrêter les expulsions en Angola et sur place. Que le monde humanitaire, les fonds humanitaires de la RDC, qui peut avoir des fonds, puisse lancer une allocation d'extrême urgence pour que les humanitaires partent et aussi que le gouvernement puisse organiser pour que, qu'il puisse aussi à son tour apporter une contribution qui soulagerait nos compatriotes.
Vice-gouverneur de la province du Kwango, Tyson Muteba Swan, y a-t-il à ce moment du débat des éléments, des informations que vous aurez souhaité partager avec nous?
Monsieur le journaliste, puisque nous sommes en train d'analyser, nous faisons des analyses autour de ce problème, de cette catastrophe de refoulés de nos compatriotes de l'Angola, je pense bien que, comme qui dirait, du choc des idées jaillit la lumière, mais nous devons mettre nos efforts, travailler en synergie. Nous ne pouvons pas mettre à la barre le gouvernement. Le gouvernement, quand il peut se mettre debout pour aller au secours de nos collègues, de nos compatriotes, s'il vous plaît, qui sont à Kayemba tout comme à Kasongolunda, il ne va pas se mettre dans la rue pour dire, faire des chantages, que je suis en train d'aller secourir les refoulés de l'Angola. Et j'ai dit que ceux qui sont à Kayemba, ceux qui sont à Kasongolunda, ce sont des services qui représentent l'autorité. Et ce sont ces mêmes services qui nous ont fourni les données statistiques. Quant à l'intervention médiate ou immédiate du gouvernement, j'ai la foi, ayons la foi que le gouvernement va intervenir. Que cela soit tard, mais dites-vous et mettez-vous en tête que mieux vaut tard que jamais. L'information est partie, et bien nous attendons maintenant la réaction. Et n'attendez pas la réaction, quelque part, que ça ne soit pas des récupérations politiques, pour que certaines disent, le gouvernement n'intervient pas, le gouvernement ne fait pas ceci. Et Paris n'a pas été conçu en un jour.
Alors, Tyson Muteba...
Qui vous parle représente le gouvernement, excusez-moi, monsieur le journaliste.
Tyson Muteba...
Qui vous parle représente le gouvernement.
Nous l'avons compris.
Nous sommes préoccupés et nous sommes debout.
Tyson...
Il faut d'abord que nous retirions cet un de nos mots pour vous attaquer à une personne morale que vous ne connaissez pas, le gouvernement. Et moi, je représente le gouvernement. Je vous donne les statistiques. C'est autant dire que nous y attelons, nous allons trouver des solutions. Que ceux qui parlent là-bas, évitez les mots et les discours, intervenez. N'attendez pas que tout ce que vous voulez qu'on fasse des refoulés vienne de l'Europe. Vous qui intervenez déjà là-bas, même avec des petits sacs, vous pouvez intervenir. Même avec 50 francs, intervenez. Par des cotisations dans vos églises, intervenez. N'attendez pas tout du gouvernement, parce que les Caritas qui nous ravitaillent ici, ce n'est pas le gouvernement.
Monsieur le vice-gouverneur...
Je pense que le message que tous les Congolais de tous les coins du Congo puissent recevoir ce message pour intervenir.
Tyson Muteba...
Au secours de leurs frères qui sont en détresse dans nos frontières.
Tyson Muteba, nous avons compris que vous faites appel à la bonne volonté, mais l'État, un État responsable, devrait se prendre en charge et faire face à ses responsabilités. Si vous aviez été malencontreusement, peut-être, parmi les gens expulsés brutalement de l'Angola, vous auriez attendu quoi de votre pays et de votre État?
Oui, vous dites bien malencontreusement, être parmi ceux qui sont expulsés de l'Angola. Ils n'ont jamais été alertés, ceux-là, qu'ils seraient un jour refoulés. Même le pays d'accueil, les cités d'accueil, n'ont jamais été informés qu'il y aurait des refoulements. C'est une situation brutale que nous déplorons. Eh bien, les réponses vont venir. Si elles tardent, ayez la foi et le gouvernement va répondre.
Merci, monsieur le gouverneur, votre message, vice-gouverneur, votre message est passé. Léon Moubikaï, c'est déjà la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? Devons-nous retenir tout simplement que les Congolais sont condamnés à subir des violences des pays frontaliers et pour le cas de l'Angola de continuer à les subir et rien ne sera fait, rien ne changera?
Non, je pense que si, ici nous devons encourager notre gouvernement central d'avoir d'abord un leadership pour diriger un pays. Et diriger, gouverner, c'est prévoir. Et il devait faire tout pour être en contact avec les homologues de l'autre côté, d'un côté, mais aussi localement. Il y a une situation sérieuse. On devait sentir... C'est depuis les premiers que la situation a commencé. Donc ce n'est pas une situation qui a commencé hier, c'est depuis les premiers. Il n'y a aucune activité du gouvernement, aucune action qui montre que le gouvernement est en train d'aider sa population. Donc c'est une population abandonnée et nous encourageons le gouvernement à revenir sur ses pas. Nous sommes ici pas dans une œuvre caritative pour dire non, la population doit cotiser. Même si nous cotisons, c'est le gouvernement, c'est la responsabilité du gouvernement de protéger sa population.
Alors, Freddy Mbakata, votre dernier mot, que devons-nous retenir de cet autre feuilleton des expulsés brutalement, des Congolais expulsés brutalement des pays frontaliers?
Je vous dirai toujours la même chose, et ça me déçoit. Sur le plan humanitaire, mieux vaut prévoir. Il faut avoir des actions anticipatives. Il faut que nous puissions nous dire que des crises humanitaires vont toujours et toujours survenir dans notre pays. Et nous devons toujours être préparés. Une banque humanitaire, elle est importante. Dans de pareils cas, on entrerait dans cette banque, on prendrait les articles les plus importants, on va secourir ceux qui sont en détresse en moins de 24 heures. Tant qu'on ne fait pas cela, nous nous retrouverons toujours. C'est une crise récurrente. De l'Angola, c'est la énième fois que nos compatriotes sont expulsés. Que cette fois-ci, que ceci nous serve de leçon pour que demain, si pareille crise survenait, que nous puissions prendre une réponse rapide qui soulagerait nos compatriotes.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Tyson Muteba, vice-gouverneur du Congo, Léon Moubikaï, médecin et député de la République démocratique du Congo, et vous-même, Freddy Mbakata, pour votre expertise à cette émission. Alain Goy était à la technique, Alain Irung et Guy Maté à la réalisation, Pelé Kipelamondo à la supervision, Dona Madimba, c'est moi, à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.